Vous écoutez Quoi de Meuf ? Le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture toutes les trois semaines. Je suis Mélanie Wanga.
Je suis Clémentine Gallo. On est toutes les deux journalistes.
Cette émission, c'est une conversation à deux dans laquelle on discute aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna.
C'est parti.
Alors aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux.
Comment ça va, Mélanie ?
Bah écoute, ça va. Tout d'abord, je voulais passer une petite dédicace à l'Irlande et à son vote magnifique que les femmes et hommes irlandais ont fait le week-end dernier.
Mmh.
Ouais. Donc ils ont rejeté le 8e amendement qui avait été ajouté à la Constitution en 1983 et qui établissait l'égalité en fait, entre l'enfant à naître et la femme. Donc en gros, c'était un amendement anti-avortement. Et donc là, il y a eu un référendum pour savoir s'il fallait enlever cet amendement. Et à 68%, l'Irlande a voté pour qu'on abroge cet amendement.
Ouais, plus besoin de prendre Ryanair pour se faire avorter.
Ouais, parce qu'apparemment, elles allaient en Angleterre, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Donc, et puis, il y avait un bateau aussi qui venait sur les côtes de l'Irlande.
Ah
le,
ouais.
Le bateau de l'avortement.
Putain.
Donc, félicitations en gaélique.
Voilà.
C'est pas comme on dit.
Congrats.
Et à part ça ?
Et à part ça, j'annonce enfin le lancement du magazine sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. C'est un magazine autour de la beauté des femmes noires.
Ouais.
Qui s'appelle Waya, W-A. IA.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire bonjour dans une langue du Congo.
Okay.
Et c'est lancé donc sur Instagram. Vous pouvez suivre le magazine sur @waya_fr. Et donc, il y aura des photos, des vidéos, des tutos, tout dédié à la beauté des femmes noires pour celles que ça intéresse.
Trop cool.
Voilà. Et toi ?
Alors moi, je voulais revenir sur la mort de Philip Roth, pour les Français. Donc l'auteur américain de Goodbye Columbus, Portnoy et son complexe, grand livre masturbatoire s'il en est, que j'aimais beaucoup. Quel rapport avec la choucroute, me direz-vous ? C'est qu'en fait, je voulais dissiper un petit malentendu, puisque j'ai pu comparer la réception de l'annonce de cette mort d'un pays à l'autre. C'est-à-dire qu'en France, d'un côté, on a eu Alain Finkielkraut qui a déclaré à la radio que Philip Roth n'avait pas eu le prix Nobel de littérature à cause de sa supposée misogynie.
Supposée.
Entre guillemets. Donc pour lui, ce n'est pas le cas. Et en face, aux États-Unis, on a eu des articles beaucoup plus honnêtes, comme le New York Times qui a écrit que c'était le dernier des grands mâles blancs. Et qui a ensuite publié un édito intitulé « Tout ce que Philip Roth ne savait pas sur les femmes aurait pu remplir un livre
».
Donc, chais. Évidemment, moi, je me sens plus proche du côté américain. Et voilà, ce que je voulais rappeler, c'est qu'effectivement, le sexisme faisait évidemment partie de l'ADN culturel à l'époque où Philip Roth écrivait. Donc, c'était limite normal, en fait. C'était souvent des récits de mecs qui vantaient leurs aventures sexuelles. Comme bien souvent, mais surtout, moi je trouve que ce qui est plus intéressant que de noter la misogynie de ces récits, enfin, et surtout le problème pour moi, c'est que Philip Roth et d'autres écrivains de cette génération, comme John Irving et dans la génération suivante comme Jonathan Franzen, ont vraiment pris toute la place et occupé tout seul le créneau du grand roman américain, en fait, sans laisser du tout la place aux autrices comme... Jessica Rhodes ou Toni Morrison, enfin voilà, il y en a beaucoup.
Dans le sens où eux, ils racontaient un truc un universel et elles, c'était que des expériences spécifiques de femmes.
Ouais, c'est ça, alors qu'en fait, eux ne parlaient que d'eux-mêmes, mais voilà, un mec qui est obsédé par la masturbation, forcément, ça en dit long sur toute l'histoire de l'Amérique.
Mais alors, sans considération, on va dire, sur le sexisme, t'aimais bien quand même, Philip Roth ?
Ouais, moi ouais. J'aimais bien, ouais. Après,
j'ai
pas tout lu. Ouais, je conseille. Après, c'est très différent entre première période et dernière période, mais. Mais oui, de manière générale, je conseille. Mais bon, en tout cas, place aux jeunes, place aux femmes. Il est temps que ça change.
Goodbye.
Goodbye. Donc cette semaine, on va parler des réseaux sociaux et de la place assez envahissante qu'ils prennent dans nos vies depuis une dizaine d'années. Il faut dire qu'aussi, être une femme sur les réseaux sociaux n'est pas anodin, comme on a pu en faire l'expérience. Et en fait, c'est vraiment un paradoxe, puisque à la fois, c'est des outils très très utiles d'amplification des voix minoritaires... et notamment du féminisme, mais, et en même temps des facilitateurs de harcèlement, des lieux où les trolls prolifèrent et des vecteurs de baisse d'estime de soi, comme on a aussi pu en faire l'expérience. Donc
c'est à double tranchant, on
c'est
va
ça.
Dire. Alors, est-ce qu'il y avait une vie avant les réseaux sociaux et avant Internet ?
Moi, non.
Je m'en rappelle plus vraiment, je sais plus très bien.
Bon, nous, on est nés dans les années Minitel, années 80.
On a pourtant vécu sans Internet pendant une bonne partie de notre vie, mais c'est vraiment difficile d'imaginer qu'il y ait eu quelque chose avant quand on regarde notre situation aujourd'hui.
On avait des jouets en bois.
Ouais, moi je suis une early adopteuse, on va dire, des réseaux sociaux. J'étais sur Facebook dès 2007 et sur Twitter en 2009, donc il y a presque déjà 10 ans.
On était trois.
Aïe, aïe, aïe. Et à l'époque, les réseaux sociaux étaient confidentiels, en fait. Quand tu parlais de ça en famille ou avec tes amis qui n'étaient pas sur Internet, tout le monde te regardait et te dire « Mais attends, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ça fonctionnait vraiment par petite communauté et par groupe d'amis, notamment sur Facebook. T'avais 50 amis sur Facebook, t'étais content, quoi. Moi, je ressentais pas encore ce côté obligatoire d'être sur les réseaux sociaux, notamment dans notre métier de journaliste. C'était beaucoup moins addictif aussi, je pense, parce qu'il y avait moins de monde, donc il y avait moins de contenu. Donc en fait, forcément, il y avait moins d'obligations d'y être. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, on croyait que les stars qui étaient sur les réseaux sociaux, elles n'étaient pas vraies. C'est-à-dire qu'il y avait déjà Justin Bieber, par exemple, qui était là. Et puis quand tu avais les gamines qui en parlaient à leurs parents, ils leur disaient « Mais attends, tu crois vraiment que c'est les stars qui te parlent sur les réseaux sociaux ?»
Donc c'est pas 36-15 là.
Voilà, c'était il y a longtemps, mais et en même temps, ça a vraiment, vraiment changé, quoi.
Ouais, et entre nous, on dit souvent que le monde serait différent si seulement Internet et les réseaux sociaux avaient été créés et gérés par des meufs.
Ouais.
On espère. Ils ne seraient pas juste utilisés comme aujourd'hui pour
ça serait beaucoup plus
harceler des gens.
Beaucoup mieux pris en compte, en fait, le harcèlement,
je pense. Ouais, ouais. C'est sûr. Et c'est vrai qu'un exemple assez parlant de ça, c'est... Il faut quand même se rappeler que Facebook a commencé par une vanne misogyne.
Lol.
Ouais, donc c'était en février 2004. Mark Zuckerberg, qui était étudiant à Harvard, voulait noter les filles sur leur physique. Et donc, c'est pour ça qu'il a créé The Facebook.
Quel beau projet.
Ouais, super. C'était très, très inspirant. Quelqu'un de très épanoui et bien dans sa peau. Et donc, voilà. Ensuite, The Facebook est devenu donc, le réseau de partage de statuts, de textes et de photos qu'on connaît, qui s'adressait d'abord aux étudiants des facs américaines. Mm-hmm. Et voilà. Et puis, bien plus tard, l'équipe Facebook a compris qu'elle pouvait se faire de la thune sur les données des gens en les vendant aux publicitaires, puisque maintenant, voilà, sur Facebook, le produit, bah, c'est nous, en fait. On fait tout le taf à leur place. C'est ce qu'on appelle le digital labor. C'est en gros de l'exploitation. Ouais. Et voilà pourquoi le service est gratuit. Super.
Ouais, ouais. Je crois qu'on va un peu déprimer hein, pendant cet épisode, parce que y a pas... Enfin, c'est devenu vraiment une grosse machine. On peut aussi parler de Twitter, qui a été créé en mars 2006 par Jack Dorsey au sein d'une start-up de San Francisco. Donc l'objectif, c'était... Facebook existait déjà et l'objectif de Twitter, c'était le micro-blogging. Donc raconter très vite, en 140 caractères, ce qui se passe.
Ça a l'air trop ringard maintenant quand
ouais,
on dit ça.
Maintenant, on se dit, ouais, ok, what's up. Et à l'époque, et même maintenant, en fait, les fondateurs de Twitter, ils disent eux-mêmes qu'ils ne s'attendaient pas à ce que leur service ait autant de succès et que ça cartonne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 328 millions d'utilisateurs actifs dans le monde de Twitter. Donc Twitter, c'est vraiment... comme on disait, à double tranchant, c'est-à-dire que ça a permis aux activistes politiques de s'organiser très rapidement. On peut notamment citer le printemps arabe de 2011, les féministes, avec les concepts du féminisme qui ont été explicités et qui ont fini par atteindre le mainstream, en fait. Et, mais il y a aussi... Enfin, Twitter a aussi métastasé un peu le pire de l'être humain, quoi. Les fachos, les nazis, les masculinistes harceleurs, les menaces de viol, les menaces de mort, et donc c'est un vecteur très, très, très fort d'angoisse.
Oui, surtout quand il y a des attaques ciblées centaines et de centaines de harceleurs.
Ouais.
Et pour compléter cette sainte trinité, il ne faut pas oublier Instagram, le réseau social roi du contenu visuel frelaté et courtisé par les influenceurs de tout poil. Et évidemment, Instagram a été racheté par Facebook. Et cette année, il devrait y avoir à peu près 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Donc c'est quand même beaucoup trop, à mon avis. Ouais. Pour ceux et celles qui vivent dans une grotte, on rappelle qu'Instagram, c'est comme une soirée diapo qui n'en finit jamais. C'est-à-dire qu'on voit les meilleurs moments de votre vie et vos plus belles photos retouchées. Et on rappelle que l'objectif à la base de cette plateforme, c'était de diffuser la créativité des utilisateurs et des utilisatrices. Et tout ça s'est transformé bien rapidement, puisqu'aujourd'hui, Instagram, c'est l'un des réseaux les plus culpabilisants pour les corps non normés et pour les corps normés, en fait, pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Et il est l'un des plus propices à la destruction de l'estime de soi. Et d'ailleurs, aux États-Unis, la National Eating Disorder Association, donc l'association des troubles alimentaires, a mené une étude sur 100 étudiantes et a constaté que pour les filles qui avaient déjà une image de soi, une image d'elles-mêmes qui était négative, ça renforçait le risque de développer un trouble alimentaire. Donc merci bien, quoi.
Ouais.
Et puis récemment, Instagram, on a vu qu'ils censuraient fréquemment des photos de seins, des photos de règles. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y a une peintre toulousaine qui s'appelle Léna Hadingue, dont son compte a été tout simplement supprimé sans préavis, puisqu'elle avait posté une image d'un sein dénudé. Donc voilà.
Ouais. Et dans les trois, on n'en a pas parlé, mais je pense que dans les trois réseaux, ce qu'on peut citer, c'est une espèce de puritanisme mal placé, quoi. Mmh. Que ce soit sur Facebook, sur Instagram et même sur Twitter, tous les corps, notamment l'anatomie féminine,
ouais,
est très fortement censurée, quoi. Mmh. Et on peut se demander pourquoi.
Ouais, ça alors.
C'est très étrange. On peut aussi parler en parallèle de YouTube, hein, qui a été créé en 2005 et qui est aujourd'hui accusé de ne pas laisser certains comptes féministes monétiser leurs vidéos.
Tiens,
c'est étrange. C'est le cas du collectif Les Internets qui se plaignent. IVG, violence sexuelle, justice et même portrait de militante russe. Chez moi, YouTube ne censure pas seulement le corps des femmes, mais tout ce qui concerne leurs droits.
Pourquoi les corps des femmes dérangent ? Aux Internets, nous croyons que chacun et chacune a le droit de disposer de son image et est libre d'en user comme il ou elle le souhaite.
On en revient à la même chose. C'est pas juste le corps, c'est pas juste le physique, c'est vraiment l'idéologie, en fait, féministe de libération des femmes qui est... Ah non, en fait on va supprimer quand même.
Rends l'argent, YouTube.
Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on parle un peu de nos expériences personnelles. Est-ce que être sur les réseaux sociaux, ça a eu une influence sur ta vie ? Est-ce que ça a été positif ? Est-ce que ça a été négatif ? Comment tu le vis ?
Alors moi, en tant qu'enfant unique, seule toute, j'ai commencé à chatter sur des chats. C'était l'ancêtre des réseaux sociaux quand j'étais au lycée.
T'étais sur Caramel, comment-tu ?
Non, j'étais sur Voilà. Ça devait être plus ou moins la même chose. Donc ça remonte à Mathis Dalem en temporalité des internets. Et moi aussi, j'ai été sur Facebook très tôt, je crois en 2006, puisque j'étais scolarisée aux États-Unis. À ce moment-là, personne en France n'y avait accès.
Et aujourd'hui... T'as vu ton adresse en EDU.
Ouais, exactement. Et aujourd'hui, comme je suis vieille, je ne suis pas sur Snapchat, donc ne me cherchez pas.
Non, mais
pas.
Plus personne n'est sur Snapchat depuis que Rihanna a dit « on n'est plus sur Snapchat », tout le monde a fait « ok ».
Donc, ce qui confirme donc que je suis vieille. Voilà, c'est QFD. Moi, de manière générale, je me méfie beaucoup de moi-même et des conduites addictives. Déjà, je ne binge jamais aucune série sur Netflix. Voilà, j'ai trop peur de devenir ce qu'on appelle une couch potato, une pomme de terre sur le canapé. Donc, j'ai enlevé Facebook de mon téléphone et j'essaie de ne garder que des applis pour un usage professionnel que je consulte le moins possible. Et effectivement, j'ai constaté que mes amis, celles qui sont par exemple très souvent sur Instagram, se comparaient vachement à la vie des autres et à leur travail et que ça avait un effet assez déprimant en fait sur le moral. Et dans la newsletter de Quoi de Meuf, récemment, j'ai interviewé une dessinatrice qui s'appelle Marie Andrew, qui doit en fait sa renommée à Instagram et elle-même dit qu'elle se déconnecte tout de suite après avoir posté une image. Donc elle-même en a peur, quoi. Et moi, de mon côté, il y a quelques années, j'ai été brièvement community manager et j'ai constaté que rapidement, j'avais du mal à dormir, j'avais du mal à me déconnecter, ça m'angoissait, enfin voilà.
Donc, tu recevais des insultes ou...
Non, même pas, c'était pas l'époque où il y avait encore des insultes, mais je sais pas, c'était juste le rythme en fait.
Et il y avait moins de contenu que maintenant encore.
Donc, ouais, non mais là, aujourd'hui je sais pas comment les gens font, mais en tout cas j'ai vu que j'étais tout le temps en alerte en fait.
Ah d'accord.
Et c'est ça qui est pas...
Hypervigilance.
Ouais, c'est ça qui est pas sain. Donc voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup de compassion pour les braves gens qui sont community managers, qui sont les petits soldats des internets. Mais non, sinon moi j'ai vraiment bénéficié du rôle que ça a joué dans la constitution de communautés féministes en fait et dans la diffusion des idées féministes, donc c'est bien. N'oubliez pas d'ailleurs de suivre Quoi de Meuf sur Twitter et Instagram. Et d'ailleurs à ce sujet, pour les personnes que ça intéresse, la revue Réseau qui est éditée chez La Découverte a consacré en fait un numéro entier l'an dernier au féminisme en ligne et au renouveau de ce qu'ils appellent un cycle de mobilisation militante. Donc je vous le conseille. Et toi ?
Alors moi, c'était surtout Twitter. Facebook, je trouvais ça cool, mais sans plus. Mais Twitter, quand j'ai découvert Twitter, ça a vraiment tout changé, notamment dans ma carrière, parce que je commençais ma carrière de journaliste. Et c'était vraiment là où j'ai rencontré un peu tous les gens qui étaient dans le même domaine que moi. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait plusieurs sphères, quoi. Il y avait la sphère des ados, la sphère des médecins, la sphère des... Et donc moi, c'est vraiment la sphère des journalistes dans laquelle j'ai évolué. Mais c'est aussi Twitter, pour moi, un des pires réseaux en termes d'addiction et de harcèlement. J'ai déjà évoqué, en fait, les problèmes que j'ai rencontrés sur le réseau qui ont fait que j'ai quitté Twitter, en fait, en 2013. Mais du coup, aujourd'hui, je suis dessus pour m'occuper du Twitter de Quad Meuf et de mon autre podcast, Le Chip. Et en fait, pareil, je reviens à ce que tu disais sur Marie Andrews. J'essaie vraiment de faire pareil, c'est-à-dire de poster ce que j'ai à poster, répondre aux messages, mais ne pas aller dérouler la timeline parce qu'en fait, c'est infini.
Et voilà, c'est le principe, quoi.
C'est un puits sans fond. Jamais, quoi. Ouais. C'est un puits sans fond. Et tu déroules sans vraiment t'en rendre compte. T'as un espèce d'effet hypnotique. Et quand tu décroches, en fait, les yeux de ton écran, t'es là, tu te dis, mais où est-ce que j'étais, en fait? Et je déteste cette sensation.
On m'a volé ma vie.
Ah, c'est affreux, quoi.
Et on rappelle aussi, puisqu'on en a déjà parlé, mais c'est toujours bien de le rappeler, que ces harceleurs de Twitter sont toujours en place. On les salue.
Si vous nous écoutez.
On les salue de très loin. On ne pense pas qu'ils nous écoutent. Et sinon, on a recueilli le témoignage de Stéphanie, qui a décidé d'organiser chez elle sa résistance personnelle contre les réseaux sociaux, puisqu'elle les déteste. Et preuve ultime, elle a même un téléphone à clapet.
Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 33 ans. J'ai un téléphone à clapet Samsung, comme les dealers de shit et les gens qui n'ont pas d'argent, qui me permet de communiquer par SMS et par appel téléphonique, et ça fonctionne très bien. Et pour rien au monde, je ne voudrais un téléphone connecté. Je me sens plus légère, plus libre. Je prends un plan de métro, papier, je regarde sur Internet avant mon voyage ou avant l'endroit où je dois aller, comment je dois y aller. Et ça se passe très bien, en fait. Je simplifie mon existence et je ne rigole pas. Il y en a qui vont dire, mais comment tu fais? Mais avant, on y arrivait très bien. Les gens sont devenus moins débrouillards. Ils font plus d'efforts. Et on est moins attentif, moins à l'écoute. Et puis, on fait moins d'efforts. On est des gros mollassons. Moi, je suis pour consommer moins, mais mieux. En plus, ces données, elles polluent. Stocker des données, ça pollue. Et il y en a de plus en plus. C'est des millions de mails qu'on ne jette pas, avec des spams, des photos à la con, des vidéos de trucs qui servent à rien. Moi, je vais sur mes mails une fois par jour, deux fois par jour, sur mon profil Facebook, parce que je connais des gens, je peux envoyer des mails, c'est un réseau professionnel, voilà, il y a un truc, il y a un outil, c'est quand même intéressant, mais un peu, quoi, pas trop. On réfléchit moins, il y a des faux débats, donc je suis pas du tout attirée par ça, et je pense pas que je changerai. Je suis pas en train de dire que tout est à jeter, il y a des choses intéressantes, mais on les utilise pas, ou mal. Voilà.
On n'est pas obligé d'avoir toutes et tous un téléphone à clapet pour s'en sortir, mais je pense que Stéphanie donne de bons conseils quand même, notamment sur le fait de se remettre en question et de se dire que c'est pas parce que tout le monde fait ça, tout le monde vit comme ça, que c'est la meilleure manière de vivre.
Moi, mes parents ont un téléphone à clapet. Je les salue. Alors, tout ça n'est pas anodin, évidemment, puisqu'il y a des effets médicaux reconnus à l'usage abusif et même, voire quotidien, des réseaux sociaux.
Il faut savoir, passer nos journées les yeux rivés sur l'écran entre les différents réseaux sociaux, les différents onglets, ça n'a absolument rien d'anodin. En France, le temps moyen passé sur les réseaux sociaux, c'est 1h22 par jour.
Donc, non,
selon le rapport digital annuel 2018 de Hootsuite et l'agence We Are Social, sachant que 1h22, ça prend en compte les gens qui ne vont pas sur Internet. Et en moyenne, pour les ados, c'est plus élevé. C'est 1h22. À minima, ce sont des heures qu'on ne donne pas à notre famille, à nos amis, à la lecture de livres, à la pratique d'un instrument, à l'apprentissage d'une langue. En fait, le côté immédiatement divertissant des réseaux sociaux se paye en fait par une perte de temps de vie irrécupérable. Donc en fait, c'est normal que ce soit gratuit parce que ce qu'ils ont en échange, ça n'a pas de prix en fait.
Et ça tombe bien puisque là où j'ai emménagé, il y a un piano. Donc je pourrais peut-être apprendre le piano
voilà.
Au lieu d'être sur Instagram. Merde. Il faut souligner aussi que toutes ces applis, on le sait mais c'est bien de le rappeler, sont expressément développées en termes de design pour faire en sorte que les utilisateurs et les utilisatrices passent le plus de temps possible connectés. Et donc pour ça, il y a des méthodes infaillibles. Par exemple, les pastilles de notification, les rouges sur Facebook, par exemple, qui exercent une attraction quasiment irrésistible sur nos cerveaux.
Aie confiance, crois en moi.
Et il a été prouvé en fait que chaque connexion, chaque message et chaque notif provoque une décharge de dopamine dans le cerveau. Donc, c'est l'hormone du plaisir. Donc,
comme un mini-orgasme.
C'est ça. Donc, pourquoi se priver, effectivement? Donc, c'est vrai que les problèmes de concentration et d'addiction qu'on peut ressentir face aux réseaux sociaux sont vraiment provoqués délibérément. Vous n'êtes ni fou, ni folle, faible créature. Ouais. Et il faut rappeler qu'un ancien de Google, qui s'appelle Tristan Harris, a justement, lui, il a tout balancé. Il a expliqué que ces produits sont vraiment conçus comme des machines à sous. Donc ça, on dit non.
Comme dans les casinos, pour que les gens passent le plus de temps possible.
Ouais, c'est ça. Sauf qu'on ne gagne pas d'argent, quoi.
Sauf qu'il n'y a rien à gagner.
En fait.
Super. Ce qu'on peut aussi souligner, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on a réussi à atteindre la disparition de l'ennui. Et pourtant, l'ennui, c'est une source de créativité. Mmh. Avant, quand on s'ennuyait, on regardait autour de soi, on observait les passants, ou on regardait la télé, si on veut.
On lisait un livre.
Mais voilà, on avait toujours des sources qu'on devait aller chercher nous-mêmes. Mmh. Ça venait pas à nous comme avec les réseaux sociaux. Maintenant, on s'abreuve, on continue des pensées des autres en permanence. Et à terme, je trouve que ça nous empêche de développer les nôtres. On suralimente notre cerveau de données non essentielles, hein, parce que des mèmes, ok, c'est rigolo sur le moment, mais après, deux jours après, on a tout oublié. Laurel. Et en plus, c'est, comme on disait, ces données n'ont pas de fin, puisque les flux sociaux sont infinis. Mmh. Et c'est pas bon pour le cerveau, et surtout aussi pour la mémoire.
On va tout savoir Alzheimer. On peut ajouter que, comme vous avez sans doute pu le remarquer, on est souvent dans la représentation et surtout dans une vraie mise en scène de soi.
Je vois pas de quoi tu veux parler.
Donc sur Twitter, c'est la course à l'échalote, la course aux bons mots, au clash. Et sur Instagram, c'est souvent la FOMO, donc fear of missing out, la peur de manquer des événements qui règnent, puisqu'on voit les gens faire la fête alors que nous, on est tout seul dans notre lit en train de scroller le flux. Et c'est vrai que ça peut générer pas mal d'angoisse. D'ailleurs, il y a eu une étude récente qui a été menée en Angleterre par la Royal Society for Public Health qui s'intitule Status of Mind et qui a dit que Instagram, donc, qui avait l'air inoffensif en apparence et très feel good, était en fait le plus nocif de tous les réseaux sociaux. Et en particulier, quand on est une jeune femme, c'est sur le corps que se fixent les angoisses. Et quand on est plus âgé, comme nous, à la vingtaine, à la trentaine, on ressent surtout un sentiment d'inadéquation par rapport à notre mode de vie et à notre travail.
Ah.
N'est-ce pas ? Et on peut aussi dire que c'est une sorte de caisse de résonance qui a tendance à amplifier la pression sociale qui pèse déjà sur les femmes. Donc, comme si on n'avait pas déjà assez de trucs à faire. En plus, on se sent obligé de faire du fitness, de faire des gâteaux parfaits, d'avoir des enfants beaux qui n'ont pas la morvonnée, d'avoir un intérieur propre et coquet.
Ouais.
Voilà, tout ça, c'est n'importe quoi, évidemment.
Ben oui, parce qu'en plus, c'est même pas juste faire les choses. C'est pas juste avoir un travail, avoir un appartement, avoir des enfants. Il faut que tout ça, tu l'aies, mais qu'en plus, ce soit beau pour que tu puisses le photographier. Sinon, tu es une sous-merde.
Ouais, il faut que ce soit compétitif. Donc, merci le capitalisme.
Ouais. Donc après, pas vraiment besoin de se poser la question pourquoi, mais on va quand même le faire. Ça peut mener à la dépression, tout ça.
Ouais.
Hein, notamment, il y a une étude récente de l'Université d'Essex qui a été faite sur les ados, qui dit que les ados qui passent plus de quelques heures par jour sur les réseaux sociaux présentent des risques accrus de dépression comparés à ceux qui passent moins de temps. Donc ici aussi, la connexion est plus forte pour les filles que pour les garçons. Ça peut s'expliquer par le fait que la société conditionne bien sûr les filles à accorder plus d'importance à ce que l'on dit sur elles, à ce qu'elles disent, et à le lier surtout à leur estime personnelle. Mais comme on le dit, hein, cette étude, en vrai, elle marche pour les adultes. Hein. Moi, je pense que si tu passes plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux, c'est foutu pour toi, quoi. Enfin, les effets se font connaître tout de suite, quoi.
Et en cas de rupture, c'est vrai qu'être sur les réseaux sociaux, ça peut rendre les choses très pénibles. Moi, personnellement, je conseillerais de couper les ponts numériques. D'ailleurs, il va bientôt y avoir la fonction mute sur Instagram, donc taisez-vous. Et moi, personnellement, avec mon conjoint, on n'est amis sur aucun réseau social pour préserver notre santé mentale.
Ah ouais ? Ouais.
Aucun. Et
ah, c'est cool.
Bah parce qu'en fait, si on a un truc à se dire, on se le dit en vrai, quoi. Et du coup, on passe pas notre temps à se dire « Ah, mais t'as liké le truc de machin, eh, mais c'est qui ?»
Ouais.
Voilà, ça évite tout problème de jalousie.
Vous faites vraiment ses voix quand vous
dites. C'est ça. Et tout... Enfin, c'est des faux problèmes, en fait, tout ça. Donc, nous, on se voit dans la vraie vie et ça suffit, en fait.
Ouais. Alors, on en a déjà un peu parlé dans un épisode précédent qui s'appelle « Non, c'est non », du harcèlement en ligne, en fait. En fait, le harcèlement en ligne, c'est comme le harcèlement dans la vraie vie. Ça peut causer des syndromes post-traumatiques. Et on rappelle aussi que le cyberharcèlement vise d'abord en priorité les femmes et les minorités. Donc on attend des lois et des mesures, ce serait bien quand même, hein, il est temps. En février, le Haut Conseil à l'égalité a remis un rapport qui s'appelle « En finir avec l'impunité des violences faites aux femmes en ligne, une urgence pour les victimes ». Surtout, les recours juridiques sont limités, on a aussi déjà parlé. Par exemple, en 2016, seulement 21 condamnations pour du cyberharcèlement. Mmh.
C'est pas assez.
Ouais, ouais.
Et moi, de mon côté, j'ai co-signé une tribune qui est parue dans Le Monde sur le cyberharcèlement des femmes journalistes. Donc, c'est un peu corporate, mais néanmoins intéressant. Et,
Parce que ça fait partie du métier.
Oui, bien sûr. Et dans laquelle on demandait que les rédactions prennent leurs responsabilités, protègent leurs journalistes, fassent des formations. Donc, ça, c'est le collectif Prenons la Une qui demande que le cyberharcèlement soit aussi reconnu comme un accident du travail, pour qu'on prenne en compte la violence et les conséquences psychiques que ça a.
Parce que jusqu'ici, quand une journaliste se fait harceler, il se passe quoi ? Elle va voir ses boss et ils lui disent «
Il se passait rien. Ouais. » On disait « Oh, ma pauvre voilà, !» et en fait, t'étais tout seule. Enfin, toute seule, surtout.
Alors que c'est ta rédaction qui t'a demandé d'écrire l'article pour lequel t'as été harcelée.
Mais après, personne ne prenait ta défense. Personne, il n'y avait pas de prise en compte psychologique.
On me disait ça va, éteins ton ordinateur.
Mais c'est ça. Ouais, rentre chez toi, ça va aller. Mmh. Ok, d'accord.
Super. Et comment est-ce qu'on peut faire, du coup, si on a besoin des réseaux sociaux dans le cadre de son travail ou si on a besoin de faire du personal branding? Alors, quelques petites règles. Il faut se fixer des plages horaires par jour pour ne pas déborder sur le soir, le week-end.
La nuit.
Voir la nuit en cas d'insomnie. Voilà, donc éviter les réseaux sociaux le week-end. Pensez à votre santé, décrochez, puisque rien ne va se passer pendant que vous ne regardez pas, ne vous inquiétez pas.
Ouais, c'est vrai. Alors, on va aussi parler des tactiques pour survivre aux réseaux sociaux si on ne peut pas ou si on ne veut pas les quitter.
Alors d'abord, enlever les notifications. Moi, je l'ai fait il y a très longtemps et en fait, je ne peux pas imaginer ma vie.
Vous êtes un has-been si vous avez encore les notifications.
C'est ringard. Non, mais vraiment, moi, je pense que je deviendrais folle, en fait. C'est comme si on me tapotait sur l'épaule toutes les 5 secondes, quoi. T'es là, mais en fait, tu me lâches. Ouais. Donc voilà, donc moi, j'ai plus de notifications. C'est vrai que c'est un vrai fléau, puisqu'en fait, elles interrompent votre activité et elles réduisent la capacité à se concentrer, à profiter du moment présent. Donc si c'est pour apprendre les dernières frasques de Kanye West ou voir la nouvelle couve moisie de Charlie Hebdo, ça peut attendre. Merci.
Ouais. Ouais, carrément. Ah non, moi j'ai ma petite sœur qui a encore les notifications, d'ailleurs si tu m'écoutes, hein, et je suis totalement contre. Deuxième conseil, faites même, alors ça c'est un conseil un peu plus hardcore, c'est le niveau supérieur, faites même sauter carrément les applis sociales de votre smartphone. En fait, vous vous sentirez tellement mieux, le fait de ne pas avoir Twitter, Instagram, Facebook sur votre téléphone, ça vous oblige à être devant votre ordinateur pour les consulter. Et déjà, c'est beaucoup d'énergie et de temps gagné. Vous pouvez attendre d'être devant votre ordinateur pour refaire défiler votre timeline, il ne va rien se passer entre temps. Rien n'est jamais aussi pressé que ce que notre époque nous fait croire. Et s'il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe, genre une mort ou grave ou quelque chose, vous le saurez tout de suite, en fait, autour de vous, les gens
par
vont
le
en parler.
Bouche à oreille.
Voilà, le bon vieux bouche à oreille.
<C'est ça. rire> Et quid de la fameuse détox digitale dont on nous vante les mérites? Par exemple, aller passer un week-end au vert, bon, ça peut être un peu cher, mais sinon, on peut simplement mettre son téléphone dans un tiroir, c'est gratuit, ça ne coûte rien.
Ouais.
Vous pouvez l'essayer au moins une fois. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que je vais m'y mettre. Et parce que, en fait, l'important, c'est vraiment de se libérer de la nécessité d'être tout le temps joignable, de créer du contenu partageable, instagrammable.
Ouais.
Voilà. Et donc, pour vous encourager à perdre l'habitude du troisième bras en forme de smartphone, vous pouvez désinstaller aussi pour une semaine ou deux le navigateur mobile, le temps de désapprendre ce réflexe qui consiste à aller sur Internet pour tout et pour rien, surtout pour rien. Regardez dans le dictionnaire. Appelez vos parents.
Et alors, on peut aussi parler des applis qui sauvent. Donc, c'est un peu les pansements qui peuvent aider. Donc, sur ordinateur, moi, j'aime bien Self Control. C'est une application qui permet de bloquer les sites de votre choix durant une durée déterminée. Parce que souvent, quand on se dit, bon, allez, je vais écrire. Hop, attends, je vais juste vérifier mes mails, je vais juste vérifier Twitter, je vais juste vérifier Instagram. Non. Self Control, vous dites pour une heure, tel site, je ne peux pas y accéder.
Et donc, si vous n'avez aucune volonté.
Voilà. Mais ça aide vachement parce qu'au bout d'un moment, tu dis, ah, bon, voilà, en fait, ça va, c'était pas si long. Mais ça marche très bien, ça peut durer jusqu'à 24 heures, c'est vous qui choisissez la durée. Sinon, il y a aussi Rescue Time qui permet de voir sur quel site vous passez le plus de temps. Donc ça, celui-là, il fait un peu mal. Hein,
oh là là.
Que tu vois qu'il y a des sites, c'est un peu ton bar, quoi. Tu y es tous les jours, t'es le pilier.
En fait, t'es sur Asos toute la journée.
Merde, 6 heures sur Asos.
Et pas sur Le Monde, comme tu croyais.
Et sur smartphone, je conseille Moment. Moment, qui fait un peu la même chose, en fait, qui est dans le sens où ça vous dit combien de temps vous avez passé avec votre smartphone allumé et le nombre de fois où vous débloquez votre téléphone pour, par jour pour l'ouvrir, et aussi des astuces pour diminuer votre score. Ce qui est bien, c'est que quand ça fait pas longtemps, t'es sévère, quand ça fait un peu longtemps, c'est orange, et quand t'as passé plus de 4 heures, ça devient rouge, et t'es là genre...
Je vais le télécharger.
Ouais, c'est très cool.
Ça va me culpabiliser. Et sinon, vous pouvez aussi passer l'écran de votre iPhone en gris, parce que les applis sont spécifiquement développé avec des couleurs vives pour vous rendre addict en mode
donc.
Alerte. Donc si vous avez un iPhone, si vous avez cette malchance, vous pouvez aller dans Réglages, Général, Accessibilité, Raccourci Accessibilité et ensuite activer Nuance de gris. De rien.
Merci.
Le moment pop culture.
Alors, la pop culture nous parle-t-elle des réseaux sociaux ?
Et en parle-t-elle bien ?
La réponse est oui. Je ne sais pas si vous avez vu la saison 2 de Dear White People.
Avertissement, le programme qui suit est destiné à un public blanc et noir, et de n'importe quelle autre couleur.
Mais en tout cas, dedans, il y a l'étudiante Sam qui passe la nuit à répondre à un troll raciste sur un faux Twitter. Et ça aussi, pour moi, c'est du vécu. C'est le défilement du ton est bien montré à l'écran qu'en fait, elle perd du temps parce que de toute façon, le gars ne changera jamais d'avis quoi qu'il arrive. Le créateur de la série, en fait, Justin Simien, a d'ailleurs raconté avoir été harcelé par des centaines de trolls dès l'annonce de la série, juste à cause du titre, qui s'appelle Dear White People.
Avant même que ça existe, quoi. Super.
Voilà. Donc ça a ramené tous les fachos, tous les white suprémacistes sur son compte. Il y a un autre truc qui me fait marrer, c'est que tous les films, tu vois, qui des années 90-2000, qui étaient un peu, qui se passaient dans le cyberespace, comme on disait à l'époque.
Vous comprenez ? Il n'y a pas de limite. Avec un tel pouvoir, ces types peuvent faire tout ce qu'ils souhaitent.
Voilà, avec des hackers chevelus qui portaient des espèces de vestes longues en cuir et tout. Bah, en fait, tous ces films-là n'ont absolument pas vu venir les réseaux sociaux. Quoi. Ça a été vraiment une disruption, quoi, je pense, les réseaux sociaux dans la psyché. Et tous ces films-là, surtout, ils partaient du principe que la liberté des gens allait leur être arrachée, un peu comme dans 1984. Quoi. Et personne n'aurait pensé que les gens allaient donner eux-mêmes leur liberté à des corporations
de
leur propre chef.
On pensait que ce serait des complots du gouvernement et pas qu'on allait s'espionner les uns les autres, finalement.
Pas qu'il suffisait de nous dire « Venez, c'est gratuit, tu peux espionner ta voisine » pour qu'on se dise « Ok, vas-y, prends toutes mes données. » Et je sais pas si t'as vu, mais Google a récemment supprimé son fameux slogan qu'ils avaient depuis leur création qui s'appelle « Don't be evil ».
En fait, c'est bon, ils sont evil maintenant.
Voilà, maintenant, en gros, ils annoncent ma couleur, quoi, genre.
Et donc moi, je voulais parler d'un film qui permet de bien rappeler la genèse misogyne des réseaux sociaux. Un film qui a un petit peu vieilli maintenant, c'est The Social Network de David Fincher.
Tout le monde veut aller sur le net pour se regarder sur ses amis, alors pourquoi ne pas concevoir un site avec tout ça ? Je te parle de prendre tous les constituants de la vie sociale de l'université et de les mettre en ligne.
Qui est sorti, ça fait déjà un moment en fait, en 2011.
Mais non, c'était l'année dernière.
Et en fait, c'est le récit romancé de la création de Facebook et dans lequel on voit que, voilà, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, le produit a été vraiment à la base pensé par des mecs pour noter et humilier les femmes. Puisqu'au départ, ils ont créé un petit algorithme qui s'appelait Hot or Not. Mmh. Et évidemment, ça ne notait pas les mecs, hein. juste les meufs. Moi, j'aime quand même beaucoup le film, puisque dans sa forme... même si c'était il y a longtemps, il essaye de mimer un peu l'activité très intense des réseaux sociaux avec un montage très fluide et des dialogues à la mitraillette qui sont la marque de fabrique du scénariste Aaron Sorkin, lui aussi misogyne patenté, mais bon, ce n'est pas grave.
C'est une autre histoire.
Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment pour la jeunesse des réseaux sociaux et dans la pop culture qui parle vraiment plutôt des usages qu'on en fait. Il faut regarder la série Crazy Ex-Girlfriend dont on parle quasiment à chaque épisode.
Trop bien.
Désolée. Et c'est vrai que la showrunneuse Rachel Bloom a été assez ouverte sur ces problèmes de santé mentale, donc c'est pas un hasard si l'héroïne qu'elle interprète, Rebecca, dès le départ de la série, a des tendances de stalkeuse compulsive vis-à-vis de ses amis. Et dans un épisode particulier qui s'appelle « Who's the cool girl Josh is dating ?», elle sombre dans une spirale infernale et elle commence à éplucher tous les comptes sociaux de la nouvelle petite amie de son ex, donc Josh. Et ce moment particulièrement... pénible et pathétique, que nous avons tous vécu, sans doute, et illustré par une chanson assez géniale qui s'appelle Research Me Obsessively, qui est interprétée par Brittany Snow, donc la petite amie, qui nargue Rebecca. You know you wanna look at my Instagram, but it's private, so Google me until you find out where I went to high school. Et ça sent le vécu.
Oh là là, cette chanson, quoi.
Déjà culte.
Les recommandations
culturelles.
De quoi de neuf ? Alors moi, cette semaine, je voulais parler d'un bouquin qui s'appelle « Le journal d'Anaïs Nin ». Donc en fait, c'est assez ancien, hein, c'est pas un truc sorti cette année. C'est une œuvre monumentale en 7 tomes, donc 20 000 pages de journal intime, écrit par cette autrice. Donc moi, j'ai acheté les 2 premiers sur un marché aux livres pour 2 euros. Il y a quelques mois, et j'ai tout de suite été happée par le style en fait d'Anaïs Nin. Elle est née en France, elle a vécu à New York, puis à Paris, puis après elle est retournée aux États-Unis. Elle a un profil assez atypique parce que bon, ses parents sont cubains, qui parlent français, anglais, qui ont vécu aux États-Unis. Et dans son journal, qui a tout d'abord été écrit en français, et ensuite qu'elle a retraduit en anglais, et qu'elle tient depuis qu'elle est enfant, elle raconte vraiment sa vie au jour le jour, quoi. Donc c'est, pour elle, elle le dit souvent dans son journal, c'est un peu comme une drogue, en fait, le fait d'écrire, de raconter sa vie, de la vivre et de la raconter. Et elle parle beaucoup, en fait, de tout ce qui l'entoure avec une espèce de poésie et en même temps du réalisme. C'est vraiment comme si elle arrivait à voir à travers le cœur et l'âme des gens qui l'entourent. Donc après, peut-être qu'elle romance beaucoup, mais en tout cas, dans la manière dont c'est écrit, c'est vraiment ça qu'on ressent. Et surtout, elle parle aussi d'elle-même beaucoup, avec une clarté très certaine. Et c'est une femme artiste, en fait, hein, parce que c'est une autrice de livres et elle a pas peur d'essayer ce qu'elle ne connaît pas. Donc, c'est assez inspirant. Alors, Anaïs Nin, elle était fan de psychothérapie, qu'elle a beaucoup étudiée. Et d'ailleurs, elle a couché avec quelques psychiatres pour, pour en apprendre plus.
Oh no.
Ouais, c'est ça. C'est assez marrant parce qu'elle allait en psychothérapie et après, elle couchait avec ses psys, quoi. Donc, voilà.
Bah, c'est juste l'aboutissement de toute thérapie,
voilà.
Finalement.
Alors, elle a une vie amoureuse très remplie qui a beaucoup fait fantasmer parce que d'abord avec l'auteur de Tropique du cancer, Henry Miller, sa femme June. Et,
qui n'a pas couché avec Henry Miller.
Et puis aussi avec des médecins renommés, donc, comme on disait. Et Anaïs Nin a aussi écrit de la littérature érotique. Alors oui, petit détail, elle était mariée, hein, mais bon, son mari l'a demandé à être expurgé de son journal. Donc comme ça, c'est réglé. Et puis bien sûr, il y a son père. Alors la figure du père, c'est vraiment quelque chose de central dans tout ce qu'elle écrit, parce que son père, c'était un dandy charmeur et vain qui trompait énormément sa mère et surtout qui a abusé d'elle aussi et qui est le sujet de son livre House of Incest.
Oula, titre ouais. Culte.
Alors, côté féminisme, Anaïs Nin, elle ne s'est jamais investie politiquement et elle ne s'est jamais dit « je suis féministe », elle ne l'a jamais déclaré. Mais en tout cas, pourtant, aujourd'hui, c'est vraiment un sujet et une inspiration de beaucoup de femmes et de beaucoup de féminisme, parce qu'elle parle de sexualité, parce qu'elle parle de liberté, du fait d'être artiste et d'être femme artiste. Il y a quelques phrases qu'elle a écrites qui m'ont vraiment touchée, donc je vais en lire 2. La première, c'est « je sais que les êtres humains placent dans un objet ou une personne cette responsabilité d'être l'obstacle à leurs rêves. » Quand l'obstacle repose toujours en eux-mêmes. Je trouve ça très fort. Et aussi, les auteurs ne vivent pas une vie, ils en vivent 2. Il y a la vie et puis il y a l'écriture. La seconde dégustation, la réaction à retardement. Voilà.
Moi, c'est vrai que Anaïs Nin, j'ai lu qu'un seul de ses livres, Vénus Erotica. Mais moi, je la connaissais surtout comme autrice de littérature érotique, ouais. Puisque c'est quand même enfin, il y a tellement peu d'érotica féministe que c'est vraiment un des rares classiques. Mm-mm. Et moi, je ne connaissais pas du tout sa vie, donc ça, je trouve ça très intéressant. J'avais juste lu qu'elle écrivait ses histoires érotiques pour 1 $.
Oui,
c'est quand même pas cher payé.
C'était un challenge qui s'était lancé, parce qu'à l'époque, c'était plus ou moins interdit, en fait. Et du coup, avec Henry Miller, ils se lançaient des challenges et ils vendaient leurs trucs pour 1 $.
Ouais.
Sous des pseudos.
Ça vaut le coup.
Oui, je conseille.
Moi, je voulais conseiller un spectacle qui se termine bientôt au mois de juin, donc allez-y. C'est le spectacle de Marina Rollman qui s'intitule Un spectacle drôle et qui se joue au Théâtre du Marais à Paris.
Très descriptive, donc.
Ouais, voilà. C'est une prophétie autoréalisatrice. Moi, c'est vrai que je me pose souvent la question de savoir si un spectacle féministe, ça a du sens et si on peut vraiment convertir le public et prêcher par l'humour, si c'est deux discours qui sont compatibles ou pas. Et là-dedans, il y a des stand-upeuses qui vont franco, qui vous rentrent dans l'art. Et la stratégie de Marina Rollman, c'est pas du tout ça. Donc elle, c'est une humoriste suisse et elle prend plutôt le public de biais, en fait. C'est-à-dire que c'est une comédienne qui a énormément de charme, en plus d'être tout à fait brillante, et elle en joue beaucoup pour amadouer en fait des gens qui n'auraient pas forcément les mêmes idées qu'elle, et en fait elle finit par faire passer des idées assez radicales de cette manière-là, et ce que je trouve très malin, c'est-à-dire que ça a pas l'air ça a l'air de rien, mais en fait tu ressors complètement convaincu. Bon, et sinon il y a aussi une partie du spectacle où elle parle de sa dépression, enfin elle en rit évidemment, et je trouve que c'est assez sain. Voilà, donc je vous conseille ce spectacle avant que ça ne termine.
Allô ?
Allô ?
T'as une question ?
Quelle meuf vous écoute ?
Cette semaine, on a reçu un message de Laetitia qui nous a envoyé un mail. D'ailleurs, vous pouvez faire de même sur hello@quadmeuf.net. Alors, la question. Lors de la question de l'auditrice de l'épisode « Ça va saigner », notre épisode précédent donc, vous citez les Catherinettes comme un problème similaire à celle qu'elle rencontre, le cadeau d'entreprise pour toutes les femmes en l'honneur des secrétaires. J'ai personnellement été Catherinette et je n'ai jamais pris ça comme un mécanisme machiste et patriarcal. Célébrer les filles non mariées à 25 ans, on célèbre également les mecs qui sont appelés Nicolas. J'ai toujours trouvé ça plutôt positif. Historiquement, l'objectif était peut-être de jouer les entremetteurs, mais aujourd'hui, les maisons jouent le jeu. Elles organisent des fêtes, offrent des fleurs, les filles sont reçues pour un cocktail à la mairie de Paris. C'est très festif et pas du tout connoté. Et elles sont également régulièrement accompagnées par des Nicolas. Tout cela me semble aujourd'hui un gentil folklore. Faut-il y renoncer ? Ma grand-mère avait été elle-même Catherinette, bien plus rare à l'époque, et cela a toujours été vu comme un élément de fierté dans la famille. Une mauvaise appréciation de ma part, de mon point de vue millénial ? Pourrait-on envisager de reprendre une tradition machiste et en faire une revendication féministe ? Encore merci pour votre réponse.
Alors, par où commencer ? Personnellement, moi, je n'ai jamais été Catherinette, donc je ne peux pas parler de ma propre expérience. Mais en tout cas, j'étais persuadée que cette tradition, qui est un peu nauséabonde, à mon sens, était tombée en désuétude. Donc je suis ravie de voir qu'elle existe encore. Mais d'abord, revenons à sa racine. Parce que d'abord, c'est qui cette Sainte Catherine ? Qu'est-ce qu'elle nous vaut ? Donc la fête de la Sainte Catherine, en fait, commémore le martyr de Catherine d'Alexandrie, qui était une jeune fille née d'une famille noble à Alexandrie, qui s'est convertie au christianisme, puisqu'elle a eu une expérience mystique où elle a vu Jésus, voilà, comme c'est souvent le
cas. Ça arrive souvent.
C'est ça, ça arrive très fréquemment. Donc la légende raconte qu'elle a contracté un mariage mystique avec Jésus, tout simplement, sous les yeux de Marie, avec sa bénédiction.
Meuf.
Girl. Et de la cour céleste. Et donc toujours selon cette légende, elle aurait ensuite refusé de se marier avec l'empereur romain Maxence, puisqu'elle était déjà mariée avec Jésus. Donc tout ça est très clair.
MDR, quoi.
Et donc l'empereur, qui s'est senti humilié, lui a fait subir les pires tortures pour se venger. Très sympa. Et a fini juste par la décapiter le 25 novembre de l'an de grâce 307.
Ah, sympa.
Donc depuis le 10e siècle, on fête la Sainte Catherine le 25 novembre. Petite parenthèse, jardinage. Sachez qu'il existe un dicton qui dit « À la Sainte Catherine, tout arbre prend racine ». Donc n'hésitez pas à planter des arbres le 25 novembre, au lieu de fêter quoi que ce soit. Donc revenons à nos moutons. Depuis le Moyen-Âge, à la Sainte Catherine, les jeunes filles non mariées sont affublées de petits chapeaux rouges et verts qui, pour se faire remarquer au bal par des prétendants. Et je tenais également à lire cette prière que l'on déclamait à cette occasion.
Ok.
Sainte Catherine, soyez bonne, nous n'avons plus d'espoir qu'en vous. Vous êtes notre patronne, ayez pitié de nous. Nous vous implorons à genoux, aidez-nous à nous marier. Pitié, donnez-nous un époux. Voilà, donc c'est très parlant. Merci Mélanie pour ton aide dans cette supplication désespérée.
J'espère que ça va marcher.
Ouais, oh, moi aussi. Et donc, il faut savoir que jusque récemment, pas mal d'entreprises permettaient aux femmes concernées de ne pas travailler ce jour-là, mais seulement si elles pouvaient porter le petit chapeau suscité. Donc, vive le paternalisme.
Au secours, quoi.
Donc, pour répondre à ta question, Laetitia, je trouve que c'est très bien de ne pas être mariée ou d'être mariée, peu importe. Mais pour moi, c'est plutôt une question de double standard. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler des Nicolas.
Ouais, jamais avant.
On connaît surtout les Catherinettes, pas les Nicolas, soyons honnêtes. Moi, je trouve que de manière générale, on ne fête pas les mecs non mariés. Hormis, c'est très rare, Nicolas. Bon. Et on a vraiment tendance à réduire les femmes à leur statut marital, comme avec la distinction madame ou mademoiselle. On ne demande pas aux hommes s'ils sont monsieur ou damoiseau, ou si ils ont pris le nom de leur femme.
Ouais.
Donc voilà pourquoi c'est misogyne, à mon sens. Et message à la mairie de Paris, calmez-vous avec les Catherinettes. C'est quoi ce truc ?
Ça suffit, Anne Hidalgo. Bon, ben, salut.
À bientôt.
Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Vous pouvez nous retrouver chaque dimanche dans la newsletter Quad Meuf. Abonnez-vous sur quadmeuf.net si ce n'est pas déjà fait.
Et vous pouvez aussi aller sur Apple Podcast et nous laisser une note, 5 étoiles de préférence, ce serait super, On est aussi sur Twitter et Instagram, sur @squadmeuf. Et on se retrouve au prochain épisode.
Bye girl.
Girl, bye.
Quad Meuf est une émission de Clémentine Gallo et Mélanie Wanga, produite par Nouvelles Écoutes, avec à la réalisation sonore Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son Maxime Olivier, au montage et au mixage Laurie Galigani.